Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant le vainqueur. Et nous sommes à l'étude numéro 5. Les deux thèmes que nous aurons aujourd'hui, c'est primo, la cure d'âme. Secondo, paître le troupeau. À une époque où l'organisation est si bien développée et où un missionnaire chrétien se trouve si souvent impliqué dans une tonne de travail de comité, affrontant une multitude d'activités apparemment nécessaires, ayant peu de portée réelle sur les objectifs spirituels, il ne paraîtra pas mal à propos si nous soulignons l'étendue de l'œuvre du ministère. Mon dictionnaire allemand et anglais donne trois définitions du mot « cure ». A. Une charge spirituelle. B. Un cours de traitement curatif. C. Une préservation, c'est-à-dire un séchage et une salaison. Ces définitions pourraient presque former un commentaire naturel sur une telle description du ministère chrétien tel que nous le trouvons en Hébreux, chapitre 13, verset 17, où il est dit « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte ». La version Philips donne une belle traduction de ce verset. Il est dit « Ils sont comme des hommes montant la garde sur votre bien spirituel et ils ont une grande responsabilité ». L'exposé du Nouveau Testament grec possède le commentaire suivant. « Ils veillent comme des bergers, oui, comme des bergers vigilants, ou ceux qui soignent un cas critique, et ceci dans l'intérêt de vos âmes, pour lesquels ils semblent parfois sacrifier vos autres intérêts. Examinons-les alors un peu en détail. » Donc, Hébreux 5, verset 4, nous indique que c'est une charge spirituelle. En effet, énormes sont toutes ces charges. Et Hébreux 5, verset 4 énonce un principe fondamental à propos de la fonction du grand prêtre à l'époque de l'Ancien Testament qui prédominerait aussi dans n'importe quel genre de ministère chrétien. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Ce principe ne reçoit pas l'importance qui lui est due. À l'heure actuelle, la tendance, c'est de commencer à penser du point de vue humain. Prenons par exemple la méthode souvent employée dans la désignation des enseignements de l'école du dimanche. Pour un tel travail, nous demandons des volontaires ou nous choisissons des jeunes qui, d'après nous, pourraient faire quelque chose. Ensuite, nous nous demandons pourquoi il est rare que des enfants confiés à leur instruction, deviennent finalement des membres de notre Église. Vous n'avez pas besoin d'un appel spécial lorsque c'est nécessaire. Tel est notre argument. Dieu est-il moins sensible aux besoins de l'homme et de la femme? Est-il vraiment moins sensible que nous tous? Mais pas du tout. Voyez-vous, la seule et véritable sagesse n'est-elle pas de rechercher sa face et de découvrir où repose l'appel et l'onction de l'Esprit Saint. Et pourtant, une telle pratique est peu comprise à l'heure actuelle, il faut bien le dire. Matthew Henry, le commentateur fabuleux, observe de manière originale, mais avec pertinence ceci. Seuls ceux qui sont appelés par Dieu peuvent s'attendre à l'aide de Dieu et à son acceptation, à sa présence et à sa bénédiction sur eux, donc sur les autres, et leur administration. Et les autres, comme je viens de dire, doivent s'attendre à un brisement plutôt qu'à une bénédiction. Chers amis, avons-nous le droit de nous attendre à ce que Dieu donne l'équipement nécessaire à ceux à qui il n'a confié aucune charge? Je vous le demande. N'est-il pas également probable qu'une grande partie des défaites, des échecs et de la mauvaise compréhension parmi ceux engagés dans l'œuvre chrétienne évidemment, de par tout le monde, soit enracinée dans ce même mépris? Voyez-vous, si nous sommes engagés dans une œuvre pour laquelle Dieu ne nous a donné aucune charge distincte et directe, comment pouvons-nous nous attendre à mener cette vie d'abnégation qui ne préoccupe des besoins, qui se préoccupe, je dois dire, des besoins des autres, hein? Comment? Et que le ministère chrétien exige vraiment? Je veux répéter cette partie car elle est importante. Si nous sommes engagés dans une œuvre pour laquelle Dieu ne nous donne aucune charge distincte et directe, comment pouvons-nous nous attendre à mener cette vie d'abnégation qui se préoccupe des besoins des autres et que le ministère chrétien exige de nous? Et Christ poursuit ce verset suivant qui nous est montré dans Hébreux, chapitre 5, verset 5, où il est dit « Ne s'est non plus attribué, Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit ceci, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ utilise souvent la même phrasologie envers ses disciples dans la chambre haute. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Saint Jean chapitre 20 verset 21. Et tandis que, dans un sens, l'œuvre du témoignage est une charge imposée à toute l'Église, mais pas à la légère et à n'importe qui. Donc, une charge accordée par Dieu et reçue consciemment est absolument nécessaire avant que chaque individu ose entreprendre un ministère spécifique. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ceci est un appel très valable, mais nous ne devons jamais perdre de vue le fait qu'il est immédiatement suivi d'une qualification, vous avez entendu, d'une qualification également valable. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Romains chapitre 10, verset 15. Maintenant, chers amis, jetons un regard à notre deuxième définition, un cours de traitement curatif. Tout comme dans le domaine physique, les soins sont souvent une tâche délicate et difficile. Donc, soigner une âme malade par le péché, ça existe. Et dans les premières étapes de son revirement vers Dieu, peut être un travail qui demande une grande patience, un degré de patience et de compréhension vraiment sérieuse. Et pour un tel travail, seul un équipement qui a été donné par Dieu peut s'avérer suffisant. La complainte formulée par le psalmiste, c'est le cri inarticulé de nombreux cœurs qui disent « Nul ne prend souci de mon âme ». Psaume 14, verset 5. J'habite dans un no man's land, commente le fabuleux Spurgeon, et ceci où personne ne se soucie de m'avoir et où personne ne prend soin de moi. Absolument personne. C'est un état, on peut dire, vraiment terrible, un état critique, il faut bien le dire, aucun endroit où poser notre tête et aucune personne ne voulant nous trouver une place. Des hommes et des femmes sont prompts à reconnaître un amour qui soigne vraiment et ils sont tout aussi prompts à s'éloigner d'un contact avec un ministère centré simplement sur soi-même et avec une activité importante affairée disparaissant sous le nom d'évangélisation. C'est si simple à la fois pour le prêtre et le lévite, penchés soit sur le cours de la tâche, soit jouissant d'une détente de ses exigences, de passer à côté, totalement à côté des besoins de leurs semblables couchés sur le bas-côté de la vie, dépouillés, blessés et à demi-morts. Luc, chapitre 10, verset 30. Et j'évoque souvent le témoignage merveilleux d'un pasteur qui s'est produit dans son propre ministère. Il dit ceci, « La cause dont j'avais la charge traversait une passe très difficile. Des incompatibilités de caractère, par exemple, entre certaines personnes travaillant avec moi, s'étaient développées. Je commençais à penser qu'il était peut-être temps que je me retire. » Que probablement quelqu'un d'autre serait plus compétent et ceci pour gérer cette situation difficile et qu'il était évident que les personnes concernées ne comprenaient ni n'appréciaient mon ministère. Et ce soir-là, ma lecture biblique se trouva être Saint Jean chapitre 10. Et ceci pas par hasard, comme on pourrait le penser. Et un verset ressortit dans ce qui sembla être presque des lettres de feu. Le mercenaire s'enfuit. Il part, il démissionne, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point du tout en peine de ses brebis. Verset 13 de Saint Jean, chapitre 10. Et il poursuit son témoignage en disant « Je ne pus que humblement rechercher le pardon du Seigneur et lui dire que je resterai là où il m'avait placé jusqu'à ce que lui-même, le Seigneur, ôte le fardeau des responsabilités de mes épaules. Et il s'occupe pas vraiment du problème, et la bénédiction suivit merveilleusement. Mais je suis souvent conscient de ce même esprit se faufilant dans mon attitude envers mon service pour le Seigneur, et j'ai alors tellement honte. Je pense que si nous étions prêts à l'admettre, eh bien, beaucoup parmi nous qui sommes actifs dans l'œuvre chrétienne réaliseraient que nous sommes souvent capables d'échouer misérablement. Oui, j'aime beaucoup la version de Philips de 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 et 26, où il est dit « Le serviteur du Seigneur ne doit pas être un homme de conflit, mais il doit être gentil envers tous, prêt et apte à enseigner. Il doit avoir de la patience et la capacité de corriger avec douceur tous ceux qui s'opposent même à son message. Il doit toujours avoir à l'esprit la possibilité que Dieu lui donnera un point de vue différent et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Ils peuvent reprendre leur sens et être sauvé de la puissance du diable par le serviteur du Seigneur et vouloir agir pour les plans de Dieu. Et j'ai entendu des pasteurs s'énerver à propos des membres du comité de leur église et se plaindre de leur manque de coopération dans le côté spirituel de la vie de l'église. Mais il est certain que ces pasteurs, si la cure d'âme leur a été confiée, devraient être les dirigeants, les bergers, les infirmiers même et les conseillers de leurs semblables et devraient aspirer par un cours de traitement curatif à transformer ceux qui semble difficile à des serviteurs heureux et utiles du Seigneur et de toute son Église. Telle est sûrement l'œuvre du ministère. Et ceci n'est pas un conseil de faiblesse ou de compromis. Il y a des fois où il est sage est nécessaire de prendre une forte direction et il y a des choses à propos desquelles nous n'osons pas nous compromettre, mais le motif sous-jacent de toutes nos affaires, que ce soit avec nos collaborateurs ou que ce soit avec ceux qui sont en dehors des rangs de l'Église, doit être celui de la guérison et doit être profondément enraciné dans l'amour qui soigne vraiment. J'ai rencontré des missionnaires qui ont fortement critiqué leurs assistants nationaux et même leur rang et les dossiers de leurs chrétiens de nom. Leur attitude s'est presque réduite à un haussement d'épaules et ils semblent penser que rien, mais absolument rien peut être fait qui aurait un changement durable. Il semblerait tout à fait clair que personne ne serait encouragé à s'aventurer dans le champ missionnaire à moins qu'il n'ait le cœur authentique d'un berger et une volonté d'accepter stoïquement pour lui-même le chemin de la croix. Le professeur Henry Drummond, ou si vous voulez Henri Drummond, s'adressa un jour à un groupe d'étudiants en ces termes. Vous ne pouvez rien faire de plus grand pour le monde païen que l'empreinte et le reflet de l'amour de Dieu sur votre propre caractère. C'est là un langage universel. C'est l'homme qui est le missionnaire. Ce ne sont pas ses paroles seulement. C'est son caractère qui est son véritable message, comme il avait raison. Et ses paroles sont un juste commentaire de ce qui a déjà été dit. Cependant, il est plus que réconfortant de réaliser que ce sont à ceux qui ont sondé les profondeurs de l'échec que Dieu donne invariablement l'appel de soigner les autres. Ceci n'est pas une charge donnée à ceux qui sont doués, à ceux qui sont bien formés, ou à celui qui a de l'éducation en tant que tel, qui a fait la Sorbonne, sans une expérience amère de leur propre médiocrité et de leur pauvreté, ils sont presque inaptes à porter les fardeaux d'un ministère spirituel. Il faut un homme, une femme, qui a découvert quelque chose de la mesure de sa propre faiblesse pour être patient avec les petites manies des autres. Et un tel homme, une telle femme, a également une connaissance de première main des soins aimants du berger suprême et de sa capacité à guérir celui qui vient humblement pour placer sa confiance en lui et en lui seul. Donc, il ne doit pas facilement désespérer des autres, mais regarder au-delà des péchés, de l'obstination et de la stupidité parfois vers la puissance d'un amour qui ne change jamais. Pour moi, c'est là tout l'ensemble des relations du Sauveur avec Simon-Pierre, relatées en Saint Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Le Seigneur Jésus-Christ ne confie pas seulement la fonction « paix les agneaux », paix les brebis, et en entendant l'affirmation pleine d'assurance de l'apôtre Pierre d'une loyauté éternelle à toute épreuve, et Dieu lui a donné, après qu'il ait totalement, rappelez-vous, totalement échoué à respecter ses vœux et qu'il a pleuré amèrement, souvenez-vous tous, dans les rues de Jérusalem. Oui, l'apôtre Paul également, jetant un regard sur les années passées, il a écrit avec une humilité profonde « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire à Jésus-Christ, à qui je dois tout, absolument tout, ce que j'ai accompli. Je dois tout à notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé enfin fidèle en m'établissant dans le ministère. Et oui, et ceci malgré le fait que j'étais auparavant un blasphémateur, un terrible blasphémateur de son saint nom et un persécuteur, souvenez-vous, un persécuteur pas très gentil mais terrible de toute son église. Oui, quelqu'un qui a fait du tort à sa cause, à la cause du Seigneur. C'est écrit dans la première épître de Timothée, chapitre 1, verset 12 et 13. Oui, il avait été soulevé du chaos de la vie, ruiné, il a été aigri par la bigoterie et l'intolérance, et il a été transformé en un bâtisseur d'église et un médecin des âmes. Ce doit sûrement être pour nous, chers amis, une cause d'étonnement continuel que les collaborateurs de Dieu sont façonnés à partir de pécheurs et d'échecs. Mais c'est aussi une raison de réjouissance et de puissante confiance. Un commentateur que j'ai déjà nommé, c'était Matthew Henry, il nous dit « De nombreuses fois, ceux qui sont désignés pour de grands services éminents sont livrés à eux-mêmes avant leur conversion pour tomber dans une grande vilenie afin que la miséricorde de Dieu puisse être mieux glorifiée dans leur rémission et dans la grâce de Dieu dans leur régénération. La grandeur du péché n'est pas véritablement un obstacle à notre acceptation par Dieu, absolument pas, ni au fait que notre être soit utilisé par lui s'il s'en est vraiment repenti. Une jeune femme qui était, on peut dire, une femme légère, vous l'avez compris, vers la Reeperbahn de Hambourg, eh bien, elle est devenue une officière, oui, officier ou officière, puisque c'est féminin, de l'armée du salut. Et elle est devenue célèbre et elle a amené de très nombreuses âmes au Seigneur. Et c'était une femme pécheresse, une femme dont beaucoup de soi-disant chrétiens auraient jeté des pierres pour la lapider. Eh oui, tout cela est vrai. Quels qu'aient été nos échecs, puissions-nous être encouragés à nous confier tout à nouveau en Jésus-Christ pour voir s'il n'a pas une charge à nous confier, pour laquelle il nous instruira et nous équipera alors que nous lui sommes soumis. Il est dit du grand peintre Rembrandt qu'il donna le conseil suivant à son élève Hoogstraten. Essaye de bien mettre en pratique ce que tu sais déjà. Et en agissant ainsi, tu découvriras en temps voulu les choses cachées sur lesquelles tu t'es interrogé. Nous avons un maître, croyez-moi, qui lorsqu'il donne une fonction, donne également son Esprit Saint de puissance afin que les merveilles cachées de la fertilité puissent être rendues accessibles à l'ouvrier confiant et obéissant. Le ministère de la cure d'âme est alors une œuvre de guérison, donnant la vie exercée par ceux qui ont été eux-mêmes restaurés. Et dans le Nouveau Testament, il existe des preuves formelles pour montrer que la maladie physique est souvent rattachée à la maladie de l'âme. Et elle doit donc entrer dans les limites d'un tel ministère. Par exemple, oui, il semblerait que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, l'apôtre signale la maladie corporelle comme étant, écoutez bien, la conséquence d'une négligence dans la mise en place du solennel, très solennel, service de l'alliance de l'Église chrétienne, le service de communion, la Sainte Cène. est le mot grec traduit par « infirme » dans ce verset, est un mot appliqué aux maladies de tout genre, tandis que celui qui est traduit par « maladif » est utilisé pour indiquer des cas de faiblesse ou de mauvaise santé continue. L'exposé du Nouveau Testament grec donne ce commentaire. Paul, l'apôtre, ne parle pas de manière figurative, pas du tout, de ses conditions spirituelles basses, mais de manière littérale. Et il donne une définition dans le sens d'affliction physique qu'il savait être leurs conséquences. Et, chers amis, je dois humblement vous avouer avec honte que j'ai moi-même passé par là. Donc, je sais de quoi je parle. L'apôtre Jacques, également, lorsqu'il fixe des instructions selon lesquelles le malade recherchera les prières et la compagnie des anciens de l'Église, ajoute « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. Jacques chapitre 5 verset 15. « Il se peut que les apôtres suivaient simplement le précédent établi par le Seigneur Jésus-Christ de lui-même, lorsque il s'est occupé de l'homme qui était atteint de paralysie, lorsque il soigna à la fois le péché et la maladie en même temps, selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 2 à 8. Et les passages parallèles à la fois dans saint Marc et saint Luc, ainsi que saint Jean, chapitre 5, verset 14, et d'autres passages, donnent absolument la même pensée. Le point que je veux souligner, chers amis, c'est que le vrai ministère s'occupe de l'homme tout entier et demande des experts qui ont appris la science de la cure d'âme à l'école de Christ. Nous devons connaître nos Bibles à fond et nous avons besoin également d'être sages dans la connaissance du livre de la nature humaine. À l'heure actuelle, l'Église chrétienne a un surplus beaucoup trop grand d'hommes et de femmes souffrant de troubles nerveux et psychiques, des maladies psychosomatiques et d'autres affections du même genre qui peuvent très bien être provoquées en grande partie par un échec et une immaturité spirituelle. Si cette armée de membres d'Église inutiles et égoïstes pouvait être délivrée et mise au travail, eh bien, croyez-moi, les répercussions dans chaque condition sociale serait incalculable et la cause de l'Évangile se lancerait en avant, portée sur un courant de vie spontané. Et pour accomplir un tel travail, nous devons avoir des hommes et des femmes ordonnés par le Seigneur lui-même à cet appel. Et le plus merveilleux de tous, concernant, évidemment, la cure d'âme. Combien de sagesse, de délicatesse d'un côté et de force de l'autre, de fidélité pénétrante ou de tendre sympathie sont nécessaires à l'homme, à la femme qui serait d'une aide réelle et en aucun cas un obstacle envers son semblable pécheur lorsqu'il s'approche de la croix de Christ. Indiscutablement, c'est seulement l'aide directe du Saint-Esprit de Dieu qui peut nous rendre vraiment efficaces dans un travail de ce genre. En même temps, nous devons nous rappeler que c'est son habitude, oui, son habitude d'œuvrer carrément à travers des intermédiaires humains, et ceci en ceci comme dans d'autres domaines, et nous devons donc être enseignés par Jésus-Christ lui-même et par l'expérience des autres. Oui, en effet, nous devons toujours être prêts à apprendre et nous ne pouvons jamais en savoir assez dans un ministère qui demande chaque morceau de sagesse spirituelle, de puissance intellectuelle et d'énergie physique que nous possédons. Oui, chacun et tous, nous devons être stimulés et dirigés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, tournons-nous vers notre dernière définition du dictionnaire, c'est-à-dire la préservation, c'est le séchage et la salaison. Je prie, écrivait Saint Paul aux Thessaloniciens, afin que tout votre être, l'esprit, avez-vous entendu, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'une de ses grandes préoccupations était la préservation de la vie spirituelle de ses convertis et la majeure partie de ses épîtres est consacrée à cette fin. Quel genre différent de personnages nous rencontrons dans n'importe quelle paroisse ou assemblée? Charles Bridge, dans son livre « Le ministère chrétien » définit certains d'entre eux. L'infidèle, l'ignorant et l'insouciant, le pharisaïque, le faux professeur, le jeune chrétien, le rétrograde, le chrétien non établi, le chrétien confirmé et conséquent, tous, absolument tous, sont sur sa liste. Et nous pouvons reconnaître chacune de ces classes de gens parmi nos contacts, et nous avons un ministère à accomplir envers tous, absolument tous. C'est un grand jour dans la vie de n'importe quel ouvrier chrétien lorsqu'il découvre que ceux dont il s'est occupé atteignent une place où ils sont désormais indépendants de lui. Ils ont enfin découvert par eux-mêmes le chemin de la dépendance envers Christ seul et, à leur tour, ils prennent des responsabilités envers les autres. Alléluia. Mais même là, il y a des fois où ils peuvent avoir besoin d'une parole d'encouragement et nous devrons encore veiller à cela de crainte que l'embrasement de leur témoignage ne soit assombri. Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants sont des dons de Dieu à son Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. Les versets qui suivent montre que ceci est placé devant nous comme étant le grand objectif du ministère et non pas seulement comme un idéal qui, d'une manière ou d'une autre, doit être atteint lorsque Christ reviendra. La préservation des chrétiens dans la gloire et l'éclat de leur joie en Christ est aussi importante que l'évangélisation. Les deux sont essentiels. Négliger l'une, c'est commettre une folie et entraver la réalisation des projets de Dieu. Il semblerait que la même pensée souligne un enseignement tel que celui donné en Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, est-il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc, l'exposé du Nouveau Testament grec souligne que là, le sel arrête ou empêche le processus de putréfaction. On le sait, surtout dans des saucisses, la viande, etc., dans la nourriture. Et les citoyens du royaume accomplissent la même fonction pour la terre, c'est-à-dire pour les gens qui y habitent. Et si cela est vrai, alors l'importance de cet aspect du ministère, l'édification des chrétiens en Christ, afin qu'ils marchent dans une union vitale avec lui, devient d'une grande importance. Le sel qui a perdu sa saveur, son pouvoir à stopper la corruption, et sans valeur, et tout ce qui reste, c'est pour être jeté dehors, et oui, et foulé au sol. Donc, la vie chrétienne individuelle ou l'Église qui est pleine d'une dévotion vitale influence tout ce qui sont autour d'elle. Mais une fois que cette influence est perdue, eh bien le pouvoir de toucher la vie de la communauté à quelque degré que ce soit est parti, envolé. Une Église forte, qui est forte spirituellement, est une influence puissante pour le bien. Même les historiens séculiers portent témoignage au fait que le grand réveil méthodiste a vraiment changé la face de l'Angleterre. Voyez-vous, lorsque le réveil gallois, c'était connu mondialement, était à son zénith, les magistrats, est-il dit, étaient sans emploi, et les bistrots, les pubs, étaient vides. À l'heure actuelle, malgré toute notre évangélisation organisée et surorganisée, une telle influence sur la société dans son ensemble n'est pas connue. Et nous trouvons la contradiction d'une activité religieuse intense, courant côté à côté, avec une criminalité croissante et un matérialisme grandissant. Est-ce là, chers amis, où le rappel sévère de saint Pierre convient le mieux quand il dit « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Je répète, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, je vous le demande. Et si le juste se sauve avec peine, mais que deviendront l'impie et le pécheur invétéré? Premier épître de Saint-Pierre, chapitre 4, verset 17 à 18. Comment un tel jugement va-t-il agir? N'est-il pas possible que ce soit par un approfondissement du ministère régulier de la prédication soutenu par derrière par une véritable charge pastorale? Il semblerait assez clair qu'une armée d'organisations, de rencontres, de campagnes particulières et de conférences n'accompliront jamais ce réajustement dans la vie de nos églises. Il est peut-être significatif que l'apôtre Pierre aille directement de cette déclaration puissante à une exhortation aux anciens, dont l'appel principal est de veiller à ce que le troupeau de Dieu soit correctement nourri et soigné. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 3, selon les versions allemandes et anglaises. Chers amis, une grande partie de la fébrilité de notre superactivité présente, qui est maintenant, vient du fait que nous ne sommes pas prêts à accepter l'implication totale du ministère et à gérer humblement, mais avec fidélité, les choses telles qu'elles sont dans la plupart de nos églises. Il y a 50 ans, le docteur Chauvette écrivit ces quelques mots qui sont étonnamment appropriés à notre propre époque. Il dit « Notre époque est perturbée » et elle l'est fructueusement et avec optimisme par de vastes et remarquables problèmes. D'un côté, le loquet est soulevé et la porte de l'opportunité reste ouverte. Mais à notre époque, nous échouerons comme d'autres hommes et femmes ont échoué à leur époque, à moins que nous n'entrions par la foi et l'expérience dans la communion à ses souffrances et que nous soyons revêtus de la puissance de sa résurrection. Des économies sociales ne sont pas suffisantes. Des professions de foi et une politique laxiste ne sont pas suffisantes. Le principe le plus robuste et le plus musculaire échouera et se fatiguera à moins qu'il ne soit rattaché au caractère qui est rendu unique et irrésistible par une communion ininterrompue avec la pensée et la volonté de Dieu. Oui, c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire, à la fois pour l'individu et pour l'État. Demeurons donc en lui dans un abandon de soi total et glorieux. Ne laissons rien nous retirer de notre enracinement. Prions sans cesse et que notre consécration soit complète et confiante afin qu'elle puisse présenter au monde une église vivante pour Dieu, une église abondante en signe de vitalité comme des haies au printemps, une église qui est stimulée dans une vision morale, une perception intellectuelle, un discernement émotionnel, une église perspicace, compétissante, plutôt compacte, excusez-moi, et osant surtout de bouger parmi les circonstances changeantes des hommes d'aujourd'hui dans le même esprit que son Seigneur avait fait et présentant partout le même ministère attirant d'un abri contre le vent, d'une couverture envers la tempête, vous avez compris, et de rivières d'eau dans une terre qui est desséchée, et de l'ombre d'un grand rocher dans un pays de lassitude. Quelle vision, une vision sur laquelle nous devons prier, croyez-moi, jusqu'à ce qu'elle brûle profondément dans notre être intérieur. Une vision qui mènera vers la cure d'âme et vers l'accomplissement de ce merveilleux ministère. Notre deuxième partie concerne de paître le troupeau. Je ne sais pas si nous pourrons arriver au terme de cette étude-là. Essayons toujours. Un ancien berger parle ici, tandis qu'il sent ses propres forces décliner, et bien son cœur est loin dans son travail bien-aimé, et il est profondément inquiet de crainte qu'il ne souffre. La passion régnante est forte même jusqu'à la mort. Imaginez la cabane d'un berger, très loin, parmi les collines du nord, allongé sur son dur matelas. Là, il y a un vieux berger qui est mourant. La puissante carcasse tourmentée par une pneumonie, chaque souffle est pénible et poussé avec douleur. La fièvre consume rapidement sa vie. Autour de lui se tiennent ses fils, accoutumés aux dangers et aux difficultés. La nuit qui plane sur les collines et la vallée ne se dispersera pas sous le toucher argenté de l'aube avant que le puissant et noble esprit ne soit admis dans la demeure après laquelle il a longtemps soupiré. Se pencher vers le bas et saisir ses paroles murmurées, noter comment il s'inquiète pour les moutons confiés à ses soins, tandis qu'il recommande à ses garçons, « M'égare, dit-il, s'il te plaît, s'il vous plaît, pensez au troupeau. » Premièrement, chers amis, nous obtenons un aperçu frappant de la simplicité de la constitution de l'Église primitive. Partout où le peuple de Dieu se rassemblait, il y avait une partie de son troupeau. Le troupeau lui-même était dispersé dans le monde entier et d'après la prière du Maître, il était un tout comme il l'est à l'heure actuelle. Car bien qu'il ait de nombreux troupeaux, il n'y a qu'un seul et unique troupeau, selon Saint Jean chapitre 10, verset 16. C'est la version révisée. Bien que certaines brebis soient conduites près des fontaines d'eau au-delà de la rivière et d'autres foulent les défilés pierreux de ce côté, pourtant c'est le même troupeau racheté en même temps, marqué des mêmes initiales et appartenant au même propriétaire. Et pourtant, où les croyants se réunissent, il y a une partie de ce troupeau et ses membres. Or, notre devoir de chrétien, c'est de prier pour le troupeau, mais également pour les pasteurs. Combien, ce silence est éloquent quant aux fonctions sacerdotales. Aucun mot n'est dit quant à la nécessité d'avoir des prêtres correctement désignés qui offriraient un sacrifice régulier et accompliraient des rites saints. Dans le jugement de l'apôtre, il n'est nullement nécessaire d'ajouter quoi que ce soit au sang précieux de l'agneau, sans défaut et sans tâche, ou d'entreprendre une fonction qui doit être accomplie au fil des siècles devant le trône par le grand prêtre. Cela aurait été le moment pour une telle référence s'il l'avait eu à l'esprit, mais elle ne lui est même pas venue à l'esprit. Il était plus que satisfait de se donner le nom d'ancien et de s'adresser à ces hommes et ces femmes au cœur simple comme étant égaux à lui, à la seule exception qu'ils n'avaient pas, comme lui, été les témoins des souffrances du berger suprême par qui le troupeau avait été acheté. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Cette référence aux souffrances de Christ ne jette-t-elle pas une veilleuse sur l'une des heures qui étaient les plus sombres de l'histoire de Pierre, du fait qu'il ait couru, souvenez-vous, il a couru en compagnie du bien-aimé Jean pour fouiller la tombe vide. Nous pouvons en conclure qu'il est rentré chez lui après avoir quitté la cour du jugement avec une angoisse amère de l'âme. Cependant, c'était beaucoup trop de rester là tout seul, tandis que tout Jérusalem était agité par le procès et la crucifixion de son plus cher ami. Et c'est ainsi que lorsque la foule à Golgotha a eu vidé les rues, qu'il semble s'être approché furtivement, se frayant un chemin par des ruelles détournées, jusqu'à ce qu'il arrive sur la scène du sang, et que, se tenant au loin, il fut témoin des souffrances terribles de son maître. C'est l'unique qualification pour garder le troupeau de Dieu, non pas d'avoir reçu une éducation au séminaire à l'université de Tübingen en Allemagne, hein, non pas être capable de parler avec aisance ou éloquence des choses spirituelles, non pas d'avoir été dans la ligne imaginaire de la succession apostolique. Un homme peut prétendre à toutes ces choses et pourtant ne pas être compétent pour nourrir le troupeau de Dieu. Nous devons contempler chacun pour soi les souffrances de Christ, non pas nécessairement avec les yeux de la chair, mais avec ceux de l'âme, non pas avec le coup d'œil curieux de la foule inconstante, mais avec le regard fixe et aimant qui trouve en lui la purification de leurs péchés et du baume pour leurs plaies. Et voir ces souffrances, ce n'est pas seulement une qualification pour soigner le troupeau, mais pour la gloire. Aussi sûrement qu'un homme contemple ses souffrances avec compassion et avec foi, il contemplera aussi sûrement la gloire qui doit encore être révélée. L'une est le prélude de l'autre. Pas de croix, pas de couronne. Mais là où se trouve la véritable croix, il doit y avoir la couronne. Il peut sembler qu'elle tarde longtemps. Le cœur peut devenir malade face à la longue attente. Mais cette gloire qui brille de temps à autre, tandis que nous gravissons la montagne de la transfiguration, deviendra sous peu un ciel perpétuel lorsqu'il sera révélé. Deuxièmement, nous avons les conditions pour les soins pastoraux. Nourri et mieux rendu par garder. Oui, nourrir, c'est encore mieux de dire garder, qui inclut en un seul mot les diverses fonctions d'un berger, conduire, nourrir, veiller et défendre. Ce n'est pas suffisant de simplement donner une prédication au troupeau une ou deux fois par semaine. Il doit y avoir une surveillance personnelle, veiller sur les âmes comme ceux qui doivent rendre des comptes, aller les chercher si elles s'égarent, suivre leurs traces jusque dans le précipice où elles sont tombées et ne jamais prendre de repos tant que la brebis égarée n'ait pas été ramenée au bercail. Oui, tout repos. Tant que la brebis égarée n'est pas ramenée au bercail, est absolument égoïste. Tout ceci est inclus dans le mot garder et nous devons faire tout cela si nous voulons garder le troupeau de Dieu. Le travail doit être fait par amour. S'il est entrepris comme conséquence d'une forte pression qui lui est imposée, ou pour une récompense quelconque qui puisse être offerte, eh bien, le berger n'accomplit pas l'idéal de ce passage, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, chers amis. Aucun des soldats de Dieu n'est un mercenaire ou un homme contraint. Ce sont tous des volontaires. Nous devons avoir un cœur de berger si nous voulons faire le travail d'un berger. Cet amour n'est pas le simple penchant qui peut venir de la chair ou être dicté par l'inclinaison de l'âme. Ce doit être un amour qui s'apparente à l'amour du berger suprême lui-même. Un amour qui peut tout supporter sans retour ou remerciement, qui peut grandir là où il n'y a pratiquement pas de terrain et qui s'accroche au moins aimant et au moins reconnaissant. Ça, c'est quelque chose. Et cet amour-là est uniquement répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh oui, entreprendre la cure d'âme uniquement parce qu'il y a un bon salaire dans la famille ou comme gagne-pain ou parce que cela nous donne une position et de l'influence est un sacrilège qui entraînera tôt ou tard un règlement de compte terrible pour le berger mercenaire. Dieu doit appeler à cette œuvre et nous y soutenir et nous donner toute la direction et la grâce nécessaires pour des résultats absolument efficaces. Il est difficile d'abandonner la lecture familière à propos de l'héritage de Dieu, j'ai bien dit, en faveur de la nouvelle version biblique simplifiée. Nous sommes donc, chers amis, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Il est dit « mon troupeau » est l'appellation par laquelle il s'adresse constamment à nous, et c'est lui qui assigne des âmes à certains bergers, que ceux qui ont de petites fonctions peu attrayantes n'aient pas une légère opinion d'eux-mêmes, surtout pas, puisque Dieu les a confiés à leurs soins. Et ils notent avec soin la fidélité avec laquelle le travail est fait, prêt à récompenser le véritable berger avec une fonction encore plus grande. Le cadre et les personnes de notre ministère devraient être pris directement des mains du berger suprême. Nous ne devons rendre des comptes qu'à lui seul. Notre travail doit être fait pour lui plaire et sous sa direction. Gloire à Dieu. Nous devons le consulter dans tous nos plans. Nous devons prendre ses directives quant à la partie des verts pâturages vers laquelle notre part du troupeau doit être conduite et près desquelles ils reposeront. Si quelque chose va mal, nous devons envisager que ça lui soit immédiatement rapporté, puisque le tourment, les soins et le fardeau doivent assurément être les siens. Si nous faisons des erreurs et que le troupeau souffre à cause de notre ignorance, eh bien le poids de la perte doit retomber sur lui. Il n'existe personne qui soit autant intéressé dans la fonction de pasteur que ne l'est le pasteur suprême. Il partage absolument tous nos soucis, toutes les épreuves, les veillées et les dangers du travail, non pas pour faire plaisir au troupeau, non pas pour s'attirer les acclamations des hommes, non pas pour gagner un nom et une renommée, mais pour faire, tout simplement, la volonté du berger suprême. Cela, chers amis, doit être le but de chaque véritable serviteur de Christ. Et il ne doit y avoir aucune suprématie impérieuse. Nous ne devons pas abuser de notre position. Le berger doit gagner le respect et non le forcer. Aucun serviteur de Dieu ne doit lutter, mais il doit être gentil envers tous, instruisant avec douceur ceux qui s'opposent. Et puisque le berger, dans la coutume orientale, doit toujours marcher devant le troupeau, vous pouvez vérifier, il doit être son exemple, soit un exemple envers les croyants, disait saint Paul au jeune Timothée. En parole, dans les conversations, dans l'amour, en esprit, dans la foi et dans la pureté. Ceux qui admettent qu'ils conduisent les autres doivent faire très attention à leur comportement, à mon comportement, afin qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement pour personne, mais que les autres puissent être encouragés et stimulés par la beauté et la constance de leur marche. Assurément, dans cette conception du berger suprême, se trouve un certain réconfort pour ceux qui constituent le troupeau. Lorsque le sous-berger échoue, on s'attend à ce que le berger suprême intervienne pour remédier à sa place vacante ou pour faire le travail qu'il a un peu négligé. Ne plaignez pas envers l'homme, hein? Ne vous plaignez pas envers l'homme, mais apportez vos récriminations aux quartiers généraux. Apportez-lui au Seigneur tous vos problèmes et soucis, et s'il ne remplace pas le sous-berger qui ne vaut rien pour un autre, il entreprendra la tâche de prendre soin de vous par lui-même, et il vous dira « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », et il veillera à ce que le travail soit fait ou il le fera même lui-même s'il le faut. Si ces mots croisent le regard d'une personne qui s'est éloignée de la tendance de sous-berger, eh bien, laissez-moi la félicité d'être dirigée par le berger suprême lui-même. Que pourrait-il y avoir de mieux? La véritable description de sa charge est donnée dans ses propres mots, qui méritent, croyez-moi, qu'on y prête une attention soigneuse. C'est Ézéchiel, chapitre 34, versets 12 à 16. Cela pourrait presque exciter l'envie. Nous terminerons par le thème numéro 3, que la récompense d'un berger fidèle est vraiment quelque chose que le Seigneur va s'en charger. Non pas la couronne de laurier, bientôt destinée à se faner, mais d'une fleur rouge impérissable. Une récompense pour un service fidèle, croyez-moi, qui ne veillera jamais, qui va jamais vieillir, et qui ne se flétrira jamais, c'est cela, ni ne peut pourrir. Je répète, ce sera donc une récompense pour un service qui est fidèle et qui ne va jamais vieillir et qui ne se flétrira jamais, ni ne pourra même se décomposer, pourrir. Et ainsi, croyez-moi, la mémoire de l'appréciation du maître du pauvre service que nous avons rendu sera perpétuelle. Et ce n'est pas tout. Mais quelques brins supplémentaires de gloire seront entrelacés avec les immortels. Oh oui, c'est la couronne, souvenez-vous, la couronne de gloire qui ne périt jamais. Oh, récompense généreuse! Oh, condescendance merveilleuse! Oh, ravissement de délices! C'est l'œuvre elle-même qui qui était une récompense suffisante pour ne pas parler d'une compensation telle que celle-ci. Pourtant, chers amis, luttons pour gagner chacune des trois couronnes qui nous sont présentées. La couronne de vie pour ceux qui supportent la tentation. La couronne de la justice pour ceux qui aiment son retour. La couronne de gloire pour ceux qui gardent le troupeau. Et pendant ce temps, demandons qu'il vienne bientôt en rejetant le voile qui le cache encore et en se manifestant au regard qui désire et au cœur qui attendent son merveilleux retour. Oui, on peut dire ensemble Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons terminer tout simplement par la prière. Seigneur, sois béni. Sois béni de ce qu'il a visité, de ce que tu as visité et racheté ton peuple, et que tu nous as suscité vraiment un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte et de servir son troupeau. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, pour la grâce, que la grâce vraiment soit rendue, et la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, et ceci pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Seigneur, aide-nous et aide tous ceux, bénis tous ceux qui ont charge d'âmes, qui doivent s'occuper de tous ceux qui sont actuellement dans des problèmes terribles, dans des soucis, sans emploi, chercher un travail, pas en trouver, être démoralisé. Bénis tes enfants par tout le monde, et que ceux qui peuvent les aider, que ce soit des femmes, des hommes, qu'ils puissent faire leur travail avec la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, ô Dieu trois fois saint, Père céleste, en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. N'oubliez jamais cela. Mais voyez-vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas quand on vous dit que tous, absolument tous, iront au ciel, que certains pourront simplement faire un petit séjour de punition, puis iront après au ciel. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu qui dit ça ainsi, mais pas du tout. Non, il est vrai que Jésus-Christ est mort pour tout un chacun, mais un peu plus loin dans la Bible, il est dit que Dieu aime surtout tous ceux qui ont vraiment, de tout leur cœur, accepté Jésus-Christ comme leur propre sauveur et Seigneur. Par contre, voyez-vous, ceux qui ont refusé sa main tendue, son salut, n'obtiendront jamais la rédemption, selon Saint Matthieu chapitre 7, verset 7. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant pour vous aucune condamnation pour tous ceux, pour vous, qui êtes en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, verset 1. Donc, voyez-vous, nous devons prendre cela au sérieux et pas prendre cela à la légère. Soyez donc bénis, mes chers amis. Merci pour l'écoute, pour l'intérêt que vous portez à ces études et à bientôt, à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.